Il est 19h30 ici à Paris et l'heure est au débat sur RFI.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
C'est l'engagement majeur du pacte vert européen, le Green Deal. La loi sur la restauration de la nature a été adoptée en début de semaine par les États membres. Alors, comme son nom l'indique, ce texte prévoit de restaurer 90% des écosystèmes terrestres et marins qui sont abîmés. Ça peut être des tourbières, ça peut être des dunes, des prairies, des forêts. C'est un projet qui est vu d'un mauvais œil par de nombreux agriculteurs qui craignent que toutes ces actions se fassent au détriment des surfaces agricoles et donc au détriment de leurs revenus. D'où notre question ce soir, la restauration de la nature est-elle une menace pour les agriculteurs? Comment s'assurer que ceux qui sont au plus près de cette nature ne soient pas les grands perdants? Et comment faire pour ne pas tomber dans le clivage entre écologie et économie? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à toutes ces questions, nos trois invités, à mes côtés en studio, Marc-André Sellos, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes biologiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Votre ouvrage « Nature et préjugés, convier l'humanité dans l'histoire naturelle ». Face à vous, Agnès Salosserie, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice du programme Biodiversité à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Et puis notre troisième invité qui est en ligne avec nous ce soir. Il s'agit de Jérémy de Serles, bonsoir.
Bonsoir.
Député européen Renew Europe et éleveur également en Saône-et-Loire, c'est dans l'Est de la France. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question, Agnès Alosserie, pourquoi est-ce que c'est un tel enjeu de restaurer la nature? Qu'est-ce qui justifie cela? En quoi est-ce que la nature est si abîmée? L'état de la biodiversité aujourd'hui, quel est-il?
Oui, alors je pense qu'il y a deux principales raisons qui expliquent pourquoi ça a été une priorité de l'Union européenne pour la dernière mandature. Et la deuxième découle de la première. La première, c'est qu'on a essayé de protéger la nature au cours des 20-30 dernières années. Au niveau de l'Union européenne, il y a eu une série de politiques qui ont été mises en place pour préserver certains habitats, donc des assemblages d'espèces, d'oiseaux et de reptiles, de flore, de faune, bref, les habitats, c'est vraiment un ensemble avec plein d'espèces. Il y a eu des mesures précises pour préserver l'eau, pour préserver les milieux marins, pour préserver les oiseaux, c'est pour ça que je l'ai mentionné plus spécifiquement. Et le constat, en 2020, c'est qu'ils ont continué de s'effondrer, ces habitats, ces espèces.
Les mesures n'ont pas porté leurs fruits.
Les mesures ont porté leurs fruits. Elles ont été ciblées sur certaines zones qui font partie de ce qu'on appelle le réseau Natura 2000. Ce sont des aires protégées, il y en a dans toute l'Europe. Et en fait, le constat, c'est que ces zones-là, elles ont peut-être aidé à freiner, à ces endroits-là précisément, la perte de la biodiversité.
Sans ces mesures, ça aurait été encore pire.
Ça aurait probablement été encore pire. C'est toujours difficile de faire du contrefactuel, mais on peut aujourd'hui l'avancer. Et en revanche, la raison pour laquelle ça n'a pas permis de sauver la biodiversité, c'est parce que tous les espaces qui ne sont pas protégés subissent des pressions massives, que ce soit des pollutions, des changements de l'utilisation des terres. Vous coupez une forêt, vous bétonisez un champ, par exemple. Donc ça fait que au total, la biodiversité s'effondre. Il y a des chiffres, moins 80% des insectes, moins 50 à 80% des oiseaux, etc. Donc quand on a trop abîmé, à un moment, il faut restaurer, il faut réparer ce qu'on a perdu. Et la deuxième raison de pourquoi c'est important, c'est qu'au-delà d'une préoccupation peut-être morale ou éthique que vous pouvez avoir de comment on habite la Terre avec les autres vivants qui la composent, il y a la question de notre bien-être et des services que cette nature nous rend. On va parler de l'agriculture. En fait, cette biodiversité, elle est indispensable au fonctionnement des écosystèmes agricoles. On peut parler aussi de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit. Tout ça, c'est des impacts directs sur nos vies. Et donc, si on ne restaure pas la nature, on va pouvoir s'attendre à plus de maladies, des moins bonnes qualités de vie dans nos villes, dans nos campagnes. Et donc, c'est devenu aussi un enjeu de santé publique, presque, je dirais.
L'activité humaine a causé ces dégradations et a besoin, évidemment, d'écosystèmes sains. S'il y a un chiffre à retenir, c'est sans doute celui-ci. Selon Bruxelles, 80% des habitats naturels dans l'UE qui sont dégradés, 80%, notamment des tourbières, des dunes et des prairies. Je reste avec vous rapidement, Agnès Alosserie, pour que vous nous disiez un peu les grandes lignes. Qu'est-ce que cette loi, elle prévoit justement de restauration de la nature? En quoi est-ce que c'est un acte si fort?
Alors, ce qui est fort dans cet acte, c'est que déjà, il apporte beaucoup de contenu technique sur ce qu'il faut faire dans les grands écosystèmes européens qui sont donc dégradés. Donc, vous avez des mesures sur les cours d'eau, vous avez des mesures sur les forêts, vous avez des mesures sur le milieu marin qui viennent un petit peu renforcer et donner un nouvel élan à ces politiques qui ont été créées il y a parfois 30 ans et qui n'ont pas trouvé les moyens de le faire. Donc là, on se fixe un objectif de résultat. Enfin, je vous dis ça, c'était dans l'esprit originel de la loi. Les différents débats, notamment au Parlement européen, font que cet objectif de résultat, il reste dans l'esprit de la loi.
La loi telle qu'elle est adoptée, en tout cas,
maintenant,
telle
c'est
qu'elle
une
a été adoptée ce lundi, et avec des exemples.
Avec, vous voulez des exemples
pour nos auditeurs,
de...
oui. D'actions qui vont être menées.
Oui, et bien par exemple, ça va être de démanteler des petits barrages qui sont sur des cours d'eau parce que en fait, ça empêche les espèces de circuler et donc ça veut dire qu'on n'a plus forcément des poissons en amont des rivières. Ça veut dire aussi qu'on va peut-être remettre en eau des zones humides, donc soit en cassant les drains qu'il peut y avoir, etc., et qui font que lorsqu'on va avoir des pluies très fortes, eh ben les sols vont absorber une partie de cette eau au lieu qu'elle déborde dans nos villes, par exemple, et que ça crée des inondations. Et pour le milieu agricole, bah, tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle la transition agroécologique, donc c'est essayer de mettre plus de vivants dans notre agriculture, ces mesures-là, on les retrouve dans ce règlement sur la restauration de la nature. Ça va être essayer d'utiliser moins de pesticides, ça va être essayer de préserver et de restaurer des prairies aussi par l'élevage extensif, par exemple, au lieu de mettre toutes les vaches dans une grande usine productrice, etc. Donc, voilà, on a besoin de retrouver les fonctions naturelles de toutes ces espèces et de tous ces milieux par la restauration. Et ce règlement, il est censé nous y amener. Il donne des pistes et il dit aux États qu'ils bah, ont des échéances pratiques à atteindre. Vous avez parlé des 90%, ça c'est à 2050. Mais
90%
sinon,
des écosystèmes restaurés, donc c'est le mot-clé. 90% voilà. Des écosystèmes qui devront être restaurés d'ici à 2050 et au moins 20% dans un court terme plus
sur la superficie
voilà,
totale.
Ce sera d'ici 2030, 20%. Jérémy De Serles, Agnès Allosery nous dit finalement le plus grand bien de cette loi. Elle nous dit que ça va favoriser les agriculteurs. Vous êtes éleveur en Saône-et-Loire, évidemment, député européen, Renew Europe également. Vous avez la même vision de cette loi sur la restauration de la nature? Vous en livrez la même analyse?
Alors, dans la version initiale, en tout cas, je ne pense pas qu'elle aurait favorisé grandement les agriculteurs. Ce que je veux juste redire en préambule, c'est que nous avons la chance en Europe, puis peut-être encore plus particulièrement en France, d'avoir l'agriculture, et donc qui en découle l'alimentation, la plus sérieuse et la plus réglementée du monde. Donc ça veut dire que même si l'agriculture a quelques, j'allais dire, aspects négatifs sur l'environnement, reste que chez nous, quand même, il y a tout un tas de règles qui, justement, obligent l'agriculture à respecter la nature. Et donc, on ne part pas de zéro. Et ça aurait été bien qu'au moment de l'écriture de cette loi, au moment de la version initiale, on prenne un peu plus ça en compte plutôt que de... comme souvent, malheureusement, de prendre l'agriculture en grippe et de considérer qu'elle doit faire encore beaucoup plus d'efforts qu'elle ne fait déjà. Et donc, en fait, voilà, la version initiale...
Parlons moins
avis,
de la version initiale pour ne pas créer de confusion pour voilà, nos auditeurs
que, non, mais voilà,
qui n'ont pas suivi les travaux.
Voilà, la version initiale, et ce qu'on a voté, en tout cas, nous, au Parlement, et ce qui a été aussi ratifié par, voté aussi par les États membres, doit, en tout cas, apporter moins de crainte aux agriculteurs, parce que ce sont des choses qui, voilà, soit sont optionnelles, ou soit seront des mesures qui seront mises en place de manière un peu plus réfléchie. Et ce ne sera pas brut de décoffrage, et ça ne mettra pas en péril directement l'agriculture. Donc, moi, je suis moins inquiet. Mais je veux surtout redire que si on veut que ça fonctionne, si on veut être efficace, il faut quand même reconnaître ce que l'agriculture produit déjà et fait déjà en matière justement de respect de l'environnement. Et donc, il faut être sur des choses un peu moins dogmatiques parfois et justement un peu plus constructives. Il faut que ce soit fait avec les agriculteurs. C'est ce qui manquait. Voilà.
Agnès Allosery qui nous dit que finalement, cette loi sur la restauration de la nature va permettre plus d'agroécologie, moins de pesticides. Jérémy De Serles, vous en pensez quoi?
Ah ben je pense que c'est une bonne chose. Tout ce qui contribuera à améliorer les choses peut être pris positivement par les agriculteurs. Sauf qu'encore une fois, tout ça, ça doit nécessiter un accompagnement concret pour pas qu'on ait l'effet inverse. Parce que nous, si on réduit les pesticides, mais qu'on continue, parce que notre production baisse, à importer des produits qui viennent d'ailleurs et qui utilisent les pesticides qu'on a interdits ou qu'on a essayé de réduire chez nous, il n'y a rien de fait. Donc voilà, il faut juste essayer d'être efficace, pertinent et qu'on ne soit pas dans une contradiction. Donc voilà, moi, tout ce qui peut nous permettre, avec un accompagnement digne de ce nom, d'aller sur cette trajectoire de diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires, moi, bien évidemment que je pousse à ça et je vous garantis que les agriculteurs sont prêts à y aller. Mais il faut les accompagner. Et pour le coup... Ça manque un petit peu dans la loi.
Je vais donner la parole à Marc-André Sellos dans un instant qu'on n'a pas encore entendu pour avoir votre œil de biologiste. Mais rapidement, Agnès Allosserie, pour terminer ce ping-pong avec Jérémy Desserles, pourquoi est-ce que les agriculteurs ont peur d'avoir le sentiment d'être méprisés à travers cette loi sur la restauration de la nature? Parce que sur le papier, on pourrait penser que ça les favorise.
Oui, je pense que c'est ce que M. Desserles vient d'expliquer aussi, ces questions d'accompagnement. C'est que longtemps, en fait, il y a eu les politiques agricoles qui ont été menées dans un coin d'une certaine façon et qui ont été très orientées sur la production et la nature. On en est conscient, mais on la prend en compte un petit peu, bien parce qu'il faut qu'on le fasse. Et aujourd'hui, ce que ce règlement met sur la table, c'est de se dire non, là, il faut qu'on repense nos modèles agricoles pour remettre les fonctions naturelles au centre. Et ça vient... Oui. Des milieux pro-environnement, etc. Et donc, en fait, c'est cette réconciliation qui doit avoir lieu. Et moi, je pense qu'elle peut avoir lieu, que c'est une occasion de le faire. Ce règlement, il implique que chaque État membre doit faire un plan national de restauration. Et moi, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut mettre effectivement tous les acteurs autour de la table. On parle des agriculteurs, mais il y a aussi les propriétaires forestiers, les pêcheurs, hein, qui tous les secteurs d'activité en lien avec le milieu naturel sont concernés. Et donc que ce plan national de restauration dise de quoi vous avez besoin pour pouvoir aller vers ces mesures-là et ne pas être perdant, ce sera fondamental. Il y a les agriculteurs qui auront un rôle à jouer, mais c'est aussi tout le système de l'alimentation en France qui doit pouvoir s'impliquer, les chaînes de distribution et même les consommateurs qui vont à la fin peut-être devoir comprendre qu'ils ne vont pas manger les mêmes choses, peut-être pas au même prix, si on veut un environnement agricole sain. Et la question politique, après, ça va être de comment on accompagne toutes ces personnes pour que ça se fasse de manière juste, qu'il n'y ait pas des perdants chez les agriculteurs, chez les citoyens, citoyennes qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à cette alimentation de qualité aujourd'hui, etc.
C'est je dirais, la délicate question de la conciliation entre les enjeux économiques des agriculteurs et les enjeux écologiques. Marc-André Sellos, on ne vous a pas encore entendu. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Parce que ça paraît un très beau concept, ça, votre œil de biologiste. La restauration de la nature. Est-ce qu'effectivement, la restauration de la nature, c'est une priorité écologique, selon vous, aujourd'hui?
Alors, c'est une priorité écologique absolument, puisque, comme Agnès le disait, en fait, ce qui se passe, c'est que non seulement, bien sûr, on perd de la diversité, on perd des êtres vivants, mais à la limite, je veux bien qu'on me dise qu'on s'en fout. Après, il y a des eaux minérales qui sont polluées par des pollutions fécales parce que les sols n'ont plus de structure pour filtrer. Après, on a des coulées de boue dans le Pas-de-Calais. Après, je découvre que 99% des insectes ont disparu dans les endroits où on cultive du cassis en France. Bah, comme il n'y a plus de pollinisateurs, bah, il n'y a plus de cassis. Et actuellement, les agriculteurs sont en train d'essayer de réintroduire eux-mêmes des pollinisateurs. Alors qu'avant, il y en avait plein. C'est quoi ce bordel? En réalité, ce qui se cache derrière cette histoire-là, c'est que cette diversité qui nous entoure, elle construit le monde tel que nous pouvons l'utiliser. Et aujourd'hui, il est très important de restaurer, mais je dirais qu'il faudrait d'ailleurs ne pas souiller. Je m'explique. Je vis dans un pays où mes impôts permettent de replanter entre 3 et 5 000 km de haies par an. Mais c'est des jeunes haies, elles ne sont pas encore complètement fonctionnelles, elles ne sont pas encore abritées d'oiseaux, elles ne sont pas encore fournies. Pendant ce temps-là, on arrache 25 000 km de haies. Or, 25 000 km de haies, c'est quoi qui disparaît? Une haie, c'est quelque chose qui réduit la pression des bioagresseurs, le passage d'une parcelle dans l'autre, de 88%. Une haie, c'est 100 tonnes de carbone stockées par kilomètre de haie. Une haie, c'est quelque chose contre l'érosion. C'est quelque chose contre le vent quand les étés sont chauds et que la végétation se dessèche. Ce sont des fonctions écologiques. Ouais. Et nous avons essayé de les remplacer par d'autres gestes. Et je suis désolé de le dire, ces gestes plombent l'agriculture de deux façons. Mais ils la plombent méchamment. Un, ils plombent le budget. Et j'entendais tout à l'heure parler de production. On s'en fout des kilos qui sont produits. On ne mange pas les kilos qu'on a produits quand on est agriculteur. On mange ce qui reste en caisse. Là, il serait temps de s'y mettre, hein, parce que la déshérence agricole, c'est un vrai problème. La souffrance d'agriculteurs, moi, je fais beaucoup de formations d'agriculteurs, j'en fais plus de 3 par mois. Eh bien, elle est réelle, mais simplement, on ne va pas la résoudre en disant qu'il faut produire beaucoup. Il faut une rentabilité d'exploitation. Et quelque part, les intrants qu'on met, ils ont un coût. Bon. Mais la deuxième raison pour laquelle il faut absolument bouger, c'est une raison sanitaire pour les agriculteurs eux-mêmes. Lisez les résultats de l'étude Agri-Camp. C'était une étude menée par l'INSERM, la fac de Caen et la Mutualité sociale agricole. Donc vous voyez, on est vraiment au cœur de l'agriculture et de la médecine. On découvre que les agriculteurs, ils ont moins de cancers que la moyenne nationale, 5-6% de moins. Sauf que quand on ouvre le capot et qu'on regarde quel cancer, on s'aperçoit que pour la plupart des cancers, c'est moins 10, moins 20, moins 30. Parce que leur vie est plus saine, leur environnement est plus sain que celui d'urbain. Mais pour d'autres cancers comme les lymphomes, c'est plus 50%. Pour les myélomes, c'est plus 25%. Ça veut dire qu'en fait, ils sont les sentinelles qui attestent de la toxicité des gestes qui sont pratiqués en agriculture. Mais rassurez-vous, vous à distance aussi. Le lindane interdit en 1998, les Français, il y a encore la moitié des Français qui contiennent du lindane. C'est interdit, mais il y en a encore. Et nos eaux sont toutes souillées par un dérivé d'un composé qu'on appelle le chlorothalonil, le R47-1811, pour dire son nom de code, bah, il y en a dans à peu près toutes les eaux potables, en tout cas dans les deux tiers des eaux dites potables de France, il y en a. Donc, ce qui se cache
derrière
ça...
Donc vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a pas une unanimité derrière cet objectif de restaurer la nature ?
Oui, parce qu'en fait, c'est potentiellement
en premier lieu, du côté des agriculteurs.
De substitution. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'on arrivera partout aux zéro pesticides. Ou aux zéro engrais minéraux. Je fais partie des gens qui veulent un cocktail, un peu de subtilité dans un monde où, brutalement, on nous annonce qu'il y a une seule bonne solution. Je veux qu'il y ait de la nature au maximum comme un outil. Je parlais de haies, je pourrais parler d'agroforesterie, je pourrais parler de culture mélangée, je pourrais parler de mélanges variétaux qui... Il y a 4% des céréalicultures de France qui utilisent ça. Vous mélangez des variétés avec des résistances différentes, ben... Les maladies se propagent mal, et donc vous traitez plus tard. Il y a donc réellement des belles au bois dormant, des outils que l'on voudrait voir utilisés, et dire qu'il y a un hiatus instrumentaliser l'agriculture pour lutter contre l'écologie, ça ne marche pas. On a la chance d'avoir un éleveur avec nous, je suis désolé, l'élevage c'est génial, parce que si c'est extensif, dans les pâtures on stocke du carbone, en plus les animaux qu'on élève, ils peuvent permettre de désherber dans certaines circonstances, donc de se passer de pesticides, notamment des moutons dans la vigne, pour donner un exemple qui existe vraiment, qui est pratiqué. Donc l'élevage est une des solutions, en plus l'élevage il fait des engrais, donc quelque part voilà, les engrais, le fumier c'est quelque chose qui va nous permettre de ne pas utiliser trop d'engrais minéraux. Vous sentez qu'il y a plein de solutions, elles se font avec l'agriculture, de toute façon on ne fera pas l'environnement sans les agriculteurs. Dans ce pays où nous sommes, la surface agricole c'est 66% de la surface totale du pays, donc je ne vois pas comment on peut faire sans eux, mais eux pourraient faire mieux.
C'est une surface qui recule ?
Ce n'est pas que la surface recule, c'est que les effectifs agricoles reculent. Il y a un problème d'appétence pour la profession agricole. Mais quelque part, je me demande s'il n'y a pas une appétence à trouver dans une autre agriculture.
Ça ouvre le débat.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Car notre débat concerne d'abord ce soir la restauration de la nature, avec cette question, est-ce que c'est une menace pour les agriculteurs ? Car la loi sur la restauration de la nature, qui est l'engagement majeur du pacte vert européen, a été adoptée en début de semaine par les États membres de l'UE. Marc-André Sellos, que l'on vient d'entendre, est l'un de mes 3 invités, biologiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Agnès Alousserie, directrice du programme Biodiversité à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Et Jérémy De Cerne, 3e invité, député européen New Europe et éleveur en Saône-et-Loire. Jérémy De Cerle, Marc-André Sellos vous a d'une certaine manière interpellé, puisque vous êtes éleveur en Saône-et-Loire, dans l'Est de la France. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à l'image de cette loi sur la restauration de la nature, on a tendance, peut-être trop tendance, peut-être c'est ce que vous vouliez dire, Marc-André Sellos, à mettre face à face l'agriculture et l'écologie ?
On n'a pas tendance, en fait, on fait que ça en permanence et il n'y a que quelques personnes comme effectivement Marc-Antoine qui justement montrent que c'est pas la solution et malheureusement on n'est pas assez nombreux et pour le coup ce texte est un véritable exemple de ce qu'on réussit à faire en termes de ce qu'on réussit à faire de mieux en termes de polarisation du débat. Qu'est-ce qui s'est passé sur le débat du texte sur la restauration de la nature au Parlement européen ? Eh bien, l'écologiste du Parlement et plutôt gauche du Parlement a extrémisé le sujet en disant que l'agriculture et finalement l'Europe s'en sortiraient qu'en faisant des mesures très très drastiques qui remettaient finalement tout en cause dans ce qu'est notre agriculture. Et puis la droite, les conservateurs, ont dit qu'il fallait rien toucher parce que c'était pas le moment, en gros, d'embêter les agriculteurs. Et donc du coup, bah, on a failli ne rien faire et voilà, on sait que dans ce texte il y a eu un certain nombre de points qui ont été enlevés et qui auraient sans doute mérité approfondissement encore une fois sur l'accompagnement notamment qu'on porte ou qu'on apporte aux agriculteurs, mais du coup on a laissé tomber quelques mesures qui avaient un peu de bon sens si on les améliorait un petit peu. Et donc en fait on est toujours en train d'opposer politiquement agriculture et environnement. Et je pense que voilà, il faut écouter aussi les agriculteurs qui sont prêts à bouger, il y en a, ça existe, moi je pense que j'en fais partie, mais il faut aussi que de l'autre côté on écoute ce que les agriculteurs ont déjà fait. Et effectivement, enfin, l'exemple de l'élevage a été pris en compte là, tout de suite, dans l'intervention précédente. Et oui, je pense que les méthodes d'élevage, le mode d'élevage majoritaire en France, et notamment l'élevage bovin, est un modèle d'élevage extensif, où justement on réussit avec l'alchimie entre justement le pâturage, la gestion du troupeau, la gestion de l'herbe, la gestion des haies, du bocage, et ben on réussit à faire des choses merveilleuses, et personne n'a à nous donner de leçons là-dessus. Et puis à contrario, il y a peut-être d'autres systèmes agricoles qui mériteraient justement d'être repensés. Mais ça, voilà, encore une fois, repenser intelligemment et pas de manière binaire. Voilà, c'est comme sur d'autres questions, enfin, qui n'ont rien à voir avec la restauration de la nature directement, mais sur les questions de bien-être animal ou sur des questions aussi d'utilisation de pesticides, on a tendance à dire, êtes-vous pour ou contre le bien-être animal, êtes-vous pour ou contre les pesticides ? Enfin, ça n'a ni queue ni tête de penser qu'on peut résoudre le problème de manière binaire. Donc, je pense que tout un chacun est capable d'être assez malin pour justement trouver une trajectoire intelligente, pertinente, pragmatique et progressive, en tenant compte de ce qui a déjà été fait, de ce qui peut encore se faire de manière intelligente.
Jérémy Desserles, je vais prendre un exemple qu'a pris d'ailleurs Agnès Allosserie au début de cette émission, celui du fait de relier les écosystèmes. Vous avez évoqué ça. C'est ce que prévoit ce texte sur la restauration de la nature, supprimer par exemple des petits barrages qui sont obsolètes sur des fleuves, sur des rivières pour atteindre des cours d'eau qui seraient libres pour une meilleure, je cite, connectivité naturelle. Est-ce que vous, Jérémy Desserles, vous n'avez pas peur que cela se fasse au détriment des surfaces agricoles, donc au détriment des revenus économiques des agriculteurs ?
Mais si c'est fait avec les agriculteurs, non, je n'ai pas peur. Parce qu'encore une fois, il y a une intelligence collective qui peut se trouver. Et justement, si on devient un peu plus nombreux à estimer que c'est justement en arrêtant de faire la guerre entre agriculture et écologie ou environnement qu'on réussira à trouver le chemin. Voilà, moi ça me fait pas peur et je pense que ça fait pas peur aux agriculteurs. Mais on a tendance, avec cette opposition un peu stérile, justement à crisper les écolos et à crisper les agriculteurs.
Finalement, l'enjeu, Agnès Allosserie, il n'est pas économique. Parce qu'on pense aux revenus d'abord des agriculteurs, pas menacés, vous nous dites, par cette loi sur la restauration de la nature. L'enjeu, il est d'abord politique, les freins, ils sont complètement culturels, je dirais.
Oui, je pense que c'est le cas. Et enfin, pour revenir sur la raison pour laquelle finalement il y a eu tous ces débats autour de ce règlement européen, on peut dire quand même qu'une partie du débat a été clairement manipulée et a fait aussi l'objet de fausses informations. En fait, typiquement sur la campagne qui a été menée par la droite conservatrice au niveau européen et l'extrême droite, c'était de dire qu'on menaçait la sécurité alimentaire européenne, voire mondiale, ça a évolué selon les instances de qui s'exprimaient, en disant qu'on allait faire cette restauration de la nature, alors que bah, j'espère que Maintenant, qu'on en parle depuis une dizaine de minutes, tout le monde a compris qu'en fait, c'était plutôt favoriser cette possibilité de continuer à pratiquer une agriculture de qualité à long terme pour les consommateurs, pour les agriculteurs, pour tout le monde. Donc, c'était vraiment cette opposition et qui, pour moi, vient d'un manque de dialogue entre les milieux politiques ou de la société civile qui traitent purement de conservation et les milieux qui traitent du business de l'agriculture aussi. Et ce n'est pas les agriculteurs qui sont forcément les plus bénéficiaires de ce business de l'agriculture. Et en fait, en se disant que... on opposait ainsi la protection de la nature et l'alimentation, et on a finalement sorti toute la question de quoi ont besoin les agriculteurs, quelle est la vision qu'ils ont pour aussi l'avenir de l'agriculture, le rôle que la biodiversité doit y jouer. Donc c'est pour ça que je me dis, maintenant c'est le moment de se rattraper avec ces plans nationaux de restauration. Mais je voulais aussi signaler qu'il y a plein d'autres initiatives qui se font déjà dans les territoires, notamment en France. Il y a des agglomérations, par exemple, qui veulent créer des circuits courts, des projets d'alimentation territoriaux, qui travaillent avec les agriculteurs du milieu périurbain en essayant de leur proposer justement quelque chose d'intéressant. Et on va retrouver de la restauration de la nature là-dedans, parce qu'il va falloir effectivement protéger, restaurer les haies, réduire les pesticides pour avoir plus d'insectes, etc. Il y a ce qu'on appelle les COP régionales de la planification écologique, où chaque région, chaque commune doit s'intéresser aux questions d'améliorer l'environnement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour retrouver la biodiversité. Et c'est là que les agriculteurs doivent être mis à table, autour de la table, pardon, et se mettre à table aussi, pour pouvoir dire quels sont leurs besoins en termes de territoire et construire ce projet ensemble au niveau où ils agissent.
Les initiatives ne manquent pas pour évidemment inciter les agriculteurs à participer à ces réflexions concernant la restauration de la nature. Ils sont évidemment en première ligne, ils ont les mains dans cette nature. Mais il nous reste une minute. Est-ce que ce dont on parle depuis un peu plus de 10 minutes, ça va faire bientôt 30 minutes, c'est la fin de ce débat, dans quelques minutes, pourrait ne jamais voir le jour avec la recomposition politique, évidemment, du Parlement européen, de la Commission européenne, héritée des élections européennes?
Le règlement est adopté, donc... Il y a différents scénarios. Il faudrait qu'au niveau de l'Européen, on fasse un rétropédalage total. Je n'ai jamais vu ça sur une politique, qu'elle soit environnementale ou autre, de dire on annule ce qu'on va faire. Non, aujourd'hui, c'est devenu un règlement. Comme je vous dis, il y avait toutes les planètes qui étaient alignées pour que aussi à d'autres échelons régionaux, nationaux, on se saisisse de ces politiques. Donc moi, je pense qu'elles vont aller de l'avant. La question, c'est est-ce qu'on leur donne le souffle maximum ou est-ce qu'on laisse la politique un peu vivoter et faire ce qu'elle peut, mais ce sera encore sur la bonne volonté de quelques-uns, et ce n'est pas ça qui va répondre aux préoccupations des agriculteurs.
Eh bien, donc la restauration de la nature, pour répondre à la question, non, n'est pas une menace pour les agriculteurs, à condition évidemment qu'ils en soient partie prenante, et c'est le projet de cette loi sur la restauration de la nature, engagement vert du engagement majeur du pacte vert européen. Merci beaucoup à vous trois, Agnès Salosserie, directrice du programme Biodiversité à l'IDRI, Marc-André Sellos, biologiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Jérémy De Serle, député européen Renew Europe, éleveur en Saône-et-Loire. Merci à Claude Battista à la réalisation, Florence Ponce à la préparation de ce débat. Restez à l'écoute dans un peu plus d'une minute, le journal de 20h, puis le décryptage d'Anne Corpé. Et juste après, ce sera l'heure de la première édition d'Afrique Soir. Bonsoir Sylvie Berruet.
Bonsoir Romain.
Allez au programme ce soir Sylvie.
À la une, Tchad, le président tchadien Mahamat Idriss Déby s'est rendu sur les lieux de l'incendie et de l'explosion d'un dépôt de munitions de l'armée la nuit dernière à N'Djamena. Le bilan provisoire est de 9 morts, 46 blessés. Une enquête est ouverte et sur place, vous l'entendrez, des scènes de désolation. Carole Valade s'est rendue sur les lieux de l'explosion où se trouve maintenant un cratère immense. Nous parlerons également de la situation humanitaire au Soudan. Depuis 14 mois, l'armée, les paramilitaires des forces de soutien rapide se livrent une guerre sans merci. Le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, qui est actuellement au Soudan, sera l'invité d'Afrique Soir. Et puis, nous parlerons de cette course de vieilles mobilettes de collection.